Longue de 9000 km, la cordillère des Andes est la plus longue chaîne de montagnes continentales sur Terre. D'une altitude moyenne de 4000 mètres, elle démarre au nord au Venezuela, longe la côte ouest du sous-continent sud-américain jusqu'au Chili et en Argentine, où elle culmine à 6962 mètres, traversant au total 7 pays. La cordillère des Andes se divise en trois parties, les Andes septentrionales du Venezuela jusqu'au centre de l'Équateur, les Andes centrales du sud de l'Équateur jusqu'au nord du Chili et de l'Argentine, et les Andes méridionales. Berceau de l'éphémère empire Inca et de nombreuses autres civilisations moins connues, cette immense région a été presque unifiée, entre guillemets, sous une seule langue véhiculaire, l'espagnol, depuis les conquêtes qui ont commencé au XVIe siècle et se sont achevées à la fin du XIXe. Elle charrie un fort imaginaire révolutionnaire, mais aussi militaire et tortionnaire, avec ses coups d'État et ses dictatures tout au long du XXe siècle. Avec sa population issue d'un mélange entre peuples autochtones et descendants des conquérants espagnols, les populations afrodescendantes en étant assez largement absentes, car selon les récits locaux, elles n'auraient pas survécu à l'altitude, l'Amérique andine est le creuset d'une diversité de cultures au sein de laquelle on peut établir quelques continuités dans les pratiques de danse ou de musique, par exemple. Mais les Andes, avec leur grand désert de sel, sont aussi un espace convoité pour ses ressources naturelles, dont le lithium est sans doute la plus recherchée à l'heure de la transition énergétique. Pour cette dernière émission régulière de l'année, les Voix du Crépuscule ne vous proposent pas une émission scientifique à proprement parler, mais plutôt un carnet de voyage à travers les Andes centrales, leur musique, leur danse et leurs enjeux miniers. Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des Rêves Lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur quatre, à 20h. Pour nous guider dans ce voyage, nous recevons une voix connue des Voix du Crépuscule, l'ex, pas tout à fait ex, animateur Émile Gayoso, sociologue et professeur de tango, ou professeur de danse peut-être plus largement.
Oh, peut-être pas quand même, non.
Professeur
non.
De tango.
Oui.
Et tanguiste, qui revient d'un voyage de quelques mois qu'il a mené de l'Argentine au Pérou, d'où il a ramené des sons. Et alors, bonjour Émile.
Bonjour Pascal.
Pour commencer cette émission, on va faire un petit détour par une autre région plus proche et un son qui n'a pas été ramené par toi. Et après, on va revenir à la cordillère des Andes. Emery, qu'est-ce que tu as le premier son? Alors, je ne vais pas faire la devinette à notre invité parce qu'il sait de quoi il s'agit. Vous l'avez peut-être tous deviné, c'est un petit son d'actualité. Parce que, aux Voix du Crépuscule, on n'en a pas souvent parlé au cours de nos 13 années d'existence, mais dans l'ensemble, on aime bien le football. Et il y aurait beaucoup à dire sur l'anthropologie, la sociologie, du sport, du supporterisme, etc. Et comme on ne l'a pas vraiment fait, eh ben, j'avais envie de passer ce son que j'ai pris au carrefour en face du Café des Sports à Antony, à côté de l'ex-National 20. Antony, donc on est à 10 km au sud de Paris à peu près. Et voilà, c'était la liesse le 31 mai après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Je ne sais pas, je pense que si on remonte 20 ans en arrière, il n'y avait pas ce genre de scène de joie à Antony, aussi loin de la ville elle-même de Paris. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Émile, tu as peut-être quelques mots à dire, toi qui aimes aussi le football, pas spécialement le PSG, mais le football.
Oui, oui. C'est vrai que bon, peut-être que j'ai laissé un regard un peu moral et politique entacher mon goût pour l'équipe du PSG. J'aimais davantage cette équipe avant que les Qataris s'en emparent et puissent rompre complètement le lien avec la formation locale et avec, on va dire, les joueurs locaux, même s'il y a heureusement toujours des joueurs qui viennent de Paris et de sa banlieue. Mais oui, je pense que le football est à la fois un sport et un rituel. Et que Lévi-Strauss, c'est intéressant de se rappeler ce que Lévi-Strauss observait quand lui-même avait été mis en contact avec cette pratique footballistique dans des ethnies sans écriture, c'est sans état, par exemple chez les Gaoukou Gama de Nouvelle-Guinée. Il avait constaté ce que toi aussi tu as constaté, Pascal, dans un match que on t'avait parlé d'un match en Guyane, c'est-à-dire que l'objectif du jeu n'était pas de gagner, l'objectif du jeu était de se rassembler. Chez les Gaoukou Gama, c'était carrément on arrêtait le match quand il y avait match nul. Donc il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants. Pourquoi ça ? Parce que pour les peuples sans écriture et les peuples sans état, dans lequel le rituel occupe une place beaucoup plus importante que dans nos sociétés sécularisées, c'est important de ne pas créer de différence suite à un rituel entre les parties prenantes. Le sport, ça prend des gens égaux et ça fait ça à la sortie, il y a des vainqueurs et des perdants. Donc pour éviter ça, pour éviter cette force un peu disjonctive qui crée des perdants et des gagnants suite au rituel sportif, pour garder cette conjonction du rituel religieux ou du rituel dansé et musical, certaines populations ont adopté le football sans le score ou sans la différence du score, en cherchant à annuler cette force de la victoire ou de la défaite.
Oui, donc c'est ça, Lévi-Strauss disait le rite rassemble et le sport divise, et donc c'est une tentative de réconciliation du sport et du rite. Ce à quoi tu faisais référence, c'est les jeux Kalinia. Alors c'est pas du football, hein, je crois, c'est plutôt des sports de pirogue, par exemple de rame. Et effectivement, le principe, c'est qu'il n'y a pas de gagnant.
Ouais. Voilà. Bon, mais c'est, disons, je pense que c'est cette différence, le structuralisme aime faire des différences tranchées. En réalité, tout ne se réduit pas à cette disjonction entre les perdants et les gagnants dans le sport. Il y a bien des phénomènes qui sont semblables dans des rituels, par exemple religieux et sportifs. Par exemple, le fait que les parties prenantes entrent dans des états émotionnels de haute intensité, parfois dans des transes. On peut trouver des transes aussi bien dans des baptêmes évangélistes qu'au Parc des Princes. Et donc, il y a des expériences émotionnelles, affectives, qui sont tout à fait semblables, des manières d'aller chercher aussi, le groupe, la dissolution dans un groupe, qui sont rassurantes dans les deux cas. Donc je pense que l'analyse de Lévi-Strauss est très intéressante, mais on ne peut pas garder cette opposition nette seulement en tête.
Alors on va retourner, on va plutôt prendre l'avion pour le continent sud-américain et quasiment le centre du continent sud-américain, parce que tu as commencé ton voyage, en tout cas ton voyage sonore, dans le nord-ouest de l'Argentine, dans la Quebrada do Humahuaca, si je dis bien le nom,
oui.
Dans une ville qui s'appelle Tilcara. Alors quel est le premier son que tu nous as ramené?
Oui, absolument.
Et quel en est le contexte?
Alors effectivement, on va rester dans une ambiance d'effervescence, de fête, Mais c'est davantage, ce sera davantage celle du carnaval qui va être un peu le centre du voyage sonore que je propose aux Voix du Crépuscule pour cette émission. Tout ne sera pas que carnaval, mais disons que l'énergie de la danse et l'énergie des rassemblements andins dont on va parler, elle tend vers ce carnaval qui est aussi, comme ce que tu as pu entendre à Antony, une effervescence sociale et un déferlement d'énergies qui sont d'habitude domestiques, contenues dans l'espace domestique, dans l'espace public. Et donc de la joie, en l'occurrence, la joie d'avoir gagné pour Paris, et de la joie aussi pour le carnaval d'Oruro, qui est le plus grand carnaval des Andes, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis maintenant une vingtaine d'années, de la même manière que le carnaval de Rio, dans un autre genre. Donc finalement, il y a des liens assez forts, parce que c'est une effervescence véritable. Donc le voyage que je vous propose, il démarre dans la Quebrada do Mahuaca, dans le nord-ouest argentin, c'est-à-dire à cet endroit où l'Argentine entre dans les Andes et dans l'Altiplano, bolivien, c'est le chemin, la Quebrada do Mahuaca, Quebrada ça veut dire canyon, c'est le chemin pour atteindre l'Altiplano qu'on va ensuite suivre à partir de la Bolivie et jusqu'au lac Titicaca et même jusqu'au Pérou, mais nous on va s'arrêter en chemin. Donc j'ai eu la chance dans ce voyage où j'y allais à la fois en tant que danseur passionné de danse et passionné de danse folklorique, mais aussi avec un regard anthropologique. J'ai eu la chance, par hasard, dans cette étape à Tilcara, de tomber sur un festival qui s'appelle Jalalawarmi, festival de musique folklorique féminine qui existe depuis 9 ans et qui a pour but de mettre en valeur la place des créatrices et des interprètes de musique folklorique en Argentine, et en particulier dans les provinces du Nord, celles de Salta, et de Jujuy. Et parce que c'est pas facile pour les femmes aussi, les femmes de ces régions andines, de se faire accepter dans les ensembles folkloriques et d'avoir une représentation scénique à la hauteur des hommes. Donc on va écouter une quéniste, une vientista, elle joue plusieurs instruments avant, la quena étant un des instruments emblématiques, il y a aussi la flûte de pan, le tinku auquel on pense, mais là vous allez entendre de la quena. Et on va écouter Mélanie Castillo, qui pour moi est vraiment une révélation magnifique. Donc elle est toute jeune, elle n'a pas encore enregistré de disque. Et voilà, vous avez la primeur de son talent aux Voix du Crépuscule.
Fue espectacular el pasaje de Mélanie Castillo en este festival. Todo el mundo se puso
le passage de Mélanie Castillo dans ce festival a été spectaculaire. Tout le monde s'est mis à danser. Donc tu as commencé avec une samba et tu as continué avec un taquirari, c'est ça? Alors oui, ça s'appelle taquirari, effectivement. Thank you.
¿Cómo composiste la propuesta, tu programa de hoy?
Comment est-ce que tu as composé ton programme d'aujourd'hui? Comment tu as choisi cette samba, ce takirari? En réalité, j'ai plusieurs chansons, mais pour cette nuit, je voulais quelque chose de plus varié. Parce que j'aime beaucoup le folklore, mais je fais aussi des chansons plus symphoniques. Je fais aussi des thèmes classiques, mais en ce moment, j'ai été inspiré par le fait que les gens dansent. Ces chansons sont très bien pour danser, donc c'était ma priorité. Et toi aussi, tu danses ? Oui, je danse le folklore et le caporal. Comment ça se danse le tarikari ? Le takirari. Le takirari se danse en couple et on fait des petits pas qui peuvent aller plus ou moins vite selon le rythme. Et le caporal. Le caporal vient de Bolivie. C'est une danse très jolie que les femmes pratiquent avec des jupes qui attirent beaucoup l'attention, très brillantes. L'homme aussi a beaucoup de puissance, de force. La saya serait la partie féminine et le caporal serait la partie masculine. C'est pour ça que la caporal a beaucoup de force. Et comment est-ce que tu as appris à jouer de la quena? Surtout parce que mon père était musicien, il est musicien. Ça m'a toujours beaucoup attiré. Donc je joue de la guitare, j'ai appris le violon, j'ai participé à un orchestre. Et ça m'a toujours beaucoup attiré. Ces instruments où on joue ensemble. Et donc, voilà, ça fait 10 ans que je joue. Et je vais continuer jusqu'à on verra. Et comment est-ce que tu continues à développer ton art?
Quel
musicien t'inspire? Comment est-ce que tu mélanges avec différentes influences? En vérité, j'étais au collège et dans un orchestre. Et donc, je me suis inspiré de ce que j'ai vécu là-bas. J'ai joué avec Bruno Arias. J'ai tourné des vidéos qui doivent être quelque part par là, sur les réseaux. Et puis, en écoutant de la musique, en écoutant ce que j'aime. Est-ce qu'on peut t'entendre? On peut t'écouter sur Spotify, sur Internet? Est-ce que tu as un disque? Non, pour l'instant, je n'ai pas enregistré comme soliste. Je viens juste de commencer à jouer comme soliste. J'ai des choses enregistrées avec d'autres groupes, mais pas comme soliste. On l'attend alors. Par contre, oui, je suis sur Instagram et vous pouvez toujours me suivre. Melanie.cas avec deux S.
Merci
beaucoup. On va attendre ce disque et merci beaucoup pour ton art. Merci beaucoup à vous et merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous plaire.
Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
Et merci Émile pour ce son et pour la primeur de cette future star. on l'espère. Hein.
On l'espère, oui.
On l'espère et on aimerait être les premiers à pouvoir la faire venir pour s'exprimer en France. Mais bon, Les Voix du Crépuscule est une émission sans budget. Donc on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on se déplace vers la Bolivie et Oruro ?
Peut-être juste expliquer ce qui vient de ce qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre une samba avec un Z, samba, un taquirari et un caporal. Et la nature même de ces rythmes, de ces formes, qui sont à chaque fois des formes musicales et des formes de danse, indique le lien entre la culture argentine et les Andes. Parce que la samba, il faut savoir, donc je précise bien, c'est la samba avec un Z, une danse de courtoisie qui se danse de loin, à deux, en couple, dans laquelle on se regarde mais on ne se touche pas. Les bras sont dressés vers le ciel, sont levés en direction de la femme, pareil pour l'homme, chacun tient un mouchoir, le mouchoir représente les sentiments intimes, et c'est vraiment la danse qui représente le plus que le tango même, le romantisme argentin. Donc il faut bien se comprendre que pour les Argentins, la samba n'est pas forcément andine. Or, elle dérive de la samacueca, qui elle, pour le coup, est andine. Et là, on l'entend dans la quena de Mélanie Castillo, enrobée dans un rythme andin avec des textures, un timbre andin. Et donc on comprend bien que cette samba, on comprend mieux en écoutant ça, pour ceux qui connaissent un peu la samba par ailleurs, qui la connaissent avec la guitare, juste avec la guitare et le bombo, là, en l'entendant à la quena, c'est tout de suite autre chose. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très intéressant, c'est déjà de constater cette samba à couleur andine. Et ensuite, eh bien, plus le programme avance, elle propose un taquirari et un caporal, plus on va vers la Bolivie, le caporal étant une danse vraiment emblématique de la Bolivie, dont on reparlera peut-être, mais dans laquelle les femmes sont très mises en valeur, avec, elle le disait, hein, c'est une danse très féminine, avec une gestuelle dans laquelle tous les gestes de la main doivent être très, très délicats, des bras voilà, très féminins.
Oui, tu voulais dire un mot du taquirari, c'est ça ou...
Le taquirari, j'avoue que je le connais moins. Il est plus rythmé, il se danse à deux. Pour le coup, là, les couples peuvent se prendre dans l'abrasso. Mmh. Voilà, c'est pas la même chose. C'est plus festif, c'est une autre énergie.
Et j'ai une question qui appelle une réponse rapide. Est-ce que la samba argentine dont tu parles a quelque chose à voir avec la samba brésilienne ?
Non, rien du tout.
Rien du tout.
Rien D'accord. du tout. Vraiment rien du tout. Donc voilà, il faut séparer les deux.
Bon, eh bien, on va laisser Tilcara et voilà. On va prendre la voiture, je suppose.
Oui, ouais, voilà, on va remonter.
Les vallées, les sommets.
Donc il faut s'imaginer, c'est ça.
L'altiplano.
Exactement.
Et on arrive en Bolivie à Oruro.
Pas encore. On va s'arrêter à Uyuni. Parce que Oruro, c'est quand même bien plus loin. Donc, on remonte la Quebrada de Humahuaca. Il faut s'imaginer qu'on parle d'un canyon gigantesque. Hein. Remonter la Quebrada de Humahuaca. Donc là, à Tilcara, on était environ à 2500 mètres d'altitude. On va monter sur l'altiplano qui sera à 3300 mètres d'altitude. Et Uyuni, ce sera à peu près son altitude. Hein. L'altitude d'Uyuni sera 3300. Mais il faut comprendre, ces paysages, ils sont gigantesques, majestueux, et que leur présence même inspire une attitude méditative, une attitude de respect qui s'incarne dans par exemple la croyance andine traditionnelle. Et je dis traditionnelle, c'est depuis les Aymara, depuis les Incas, depuis la culture de Tiwanaku, depuis l'Empire Inca, c'est le fait que les montagnes, les salars, les manifestations géologiques des Andes sont des huacas, des entités qu'on vénère et qu'on respecte. Voilà. Et ça s'impose à nous, même voyageurs du 21e siècle. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture inca ou aymara. Ça s'impose, c'est d'une puissance phénoménale. Je le dis parce que voilà, c'est pas anodin. Donc on arrive sur l'altiplano, on traverse la frontière bolivienne, on est dans la puna. L'altiplano, c'est ce grand espace entre la cordillère orientale et la cordillère occidentale, qui est relativement plat, fait de steppes plus ou moins arides, qu'on appelle la puna, P-U-N-A. Et donc, il y a des punas plus ou moins voilà, sèches ou plus ou moins humides. Et donc, il y a des villes tout au long de cet altiplano. Et Uyuni...
Uyuni, c'est
particulier.
C'est un désert de sel.
Voilà, c'est une ville construite exactement à côté du plus grand désert de sel du monde, du plus grand salar. Donc, c'est un lieu... les déserts de sel sont aussi des wakas, sont aussi des lieux qui, depuis des temps immémoriaux, sont vénérés et respectés par leur puissance géologique, mais aussi parce qu'ils apportent du sel. Donc, et le sel, que ce soit pour les animaux, les moutons ou le lama, que ce soit pour la construction, parce qu'on fait des briques de pain de sel, donc on peut construire aussi des maisons avec des pains de sel, que ce soit pour la conservation des aliments, ça, c'était un bien très, très utilisé depuis les premières cultures andines. Et donc, ça vaut le coup de s'arrêter au Salar d'Uyuni, même si on sort un peu de la danse et de la musique, parce qu'on est en prise là avec deux phénomènes majeurs qui concernent les Andes, le tourisme et l'exploitation du lithium. Donc je vous propose d'écouter un historien, acteur du tourisme d'Uyuni, un des pionniers, qui s'appelle Tito Ponce León et qui a écrit un livre, Uyuni, Más allá del tiempo, Uyuni par-delà le temps. Donc on va l'écouter nous parler du Salar d'Uyuni.
Un poco más, vamos a llegar a esta dimensión política, a la explotación del litio, vamos a llegar. Pero hablemos un poquito más de los pueblos originarios. ¿Nos podría decir quiénes eran? Nombrarlos y decir.
Parlons un peu plus des peuples originaires du Salar de l'Uni.
¿Qué hacían?
¿Pourriez-vous nous dire qui étaient-ils? ¿Comment vivaient-ils? ¿De quoi vivaient-ils?
Esta sal se transportaba en llamas.
Faut savoir que ce sel se transportait en lama.
Todo el entorno del salar había gente, pero escasamente, muy poco.
Il y avait des populations tout autour du salar, mais qui vivaient en petit nombre.
Y muchos de ellos utilizaban la sal para hacer sus algunas viviendas.
Beaucoup d'entre eux utilisaient le sel
utilizaban
pour
el cactus
construire
para sus puertas,
leurs habitations.
Para sus
ils utilisaient aussi le cactus
entonces, le dieron
pour faire les portes.
Utilidad a lo que el salar les daba.
Ils ont donné une utilité
estos trueques, por ejemplo,
à ce que le salar leur donnait.
O sea, el medio de transporte del salar ha sido la llama.
Sí. Et ya,
hasta que
de façon constante
entró el camión,
dans la vie du salar,
prácticamente el camión mató
il y avait
a
le
las
lama,
ecuas de llamas,
le lama qui transportait le sel,
no
le bois du cactus.
Ecuas de llamas que viajen,
c'est
no?
Le camion qui a
c'est
tué le lama.
Que mató a las caravanas de
ce n'est pas le train qui a tué les caravanes de lama.
Camion.
Le ferrocarril a commencé, mais c'est surtout le camion. Dans un autre salar, près d'ici, il y a beaucoup de camions. On peut arriver en camion facilement, mais le train n'arrive pas.
Entonces, ¿dónde llega el tren? A Cochabamba, cargaban ahí. En Colchani cargaban y llevaban.
Où arrive le train? À Cochabamba, oui.
Pero tampoco se ganaba mucho porque cada pan que hacían ellos.
Mais il faut s'imaginer qu'on gagnait pas beaucoup.
Centavos,
parce que chaque pain de sel qu'ils faisaient.
El cubo de
50 centimes.
Granulada costaba 10 pesos, creo.
Le cube de granulé coûtait 10 pesos.
Para poco.
Imaginez travailler autant pour si peu.
Mucho tiempo.
Et ça s'est produit pendant beaucoup de temps. Oui, pendant beaucoup de temps.
Quedó pobre hasta,
c'est pour ça que,
hasta que llegó el turismo.
Que ces esa personnes sont restées pauvres jusqu'à ce que le tourisme arrive.
Muchos de los que son ahora guías o que tienen tiendas de turismo.
Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui guides ou qui ont des boutiques de tourisme se dédiaient au sel auparavant. Oui, absolument.
Describirnos un poco cuáles son estas poblaciones.
Pouvez-nous décrire quelles sont ces populations, quelle langue ils parlent,
que tengamos así una pequeña mapa mental.
Pour que nous ayons une petite carte mentale.
La primera que está la que ha trabajado constantemente.
La première, celle qui a travaillé de façon constante avec le sel, c'est Colchani. C'est pour ça qu'il y a une grande coopérative à Colchani. Une coopérative limitée aux gens de là-bas. Ils se sont maintenus à Colchani.
Se viene hasta el día de hoy. Todos ellos tienen sus casas de sal.
Et tous ceux de Colchani aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ont leur maison faite en sel.
Y la entrada están de puro.
Et l'entrée du salar d'aujourd'hui est faite avec des sculptures de Colchani en sel.
Son personas que hablan aymara, quechua,
ce sont des gens qui parlent aymara, quechua, espagnol.
Son bilingües.
Ce sont des bilingues.
Sí, hay muchos que hablan aymara.
Il y en a beaucoup qui parlent aymara.
Muchos que hablan quechua.
Beaucoup qui parlent quechua.
También español.
Et aussi espagnol.
Logiquement, l'espagnol ahora se ha.
Et oui, aussi l'espagnol. L'espagnol s'est introduit fortement maintenant.
Sont trilingües, casi.
Donc ils sont trilingues.
Sí. La mayor parte.
Oui, on peut dire.
Los habitantes alrededor del salar hablan también aymara y quechua.
La plus grande part des habitants autour du salar parlent aymara y quechua. Oui, absolument.
Por ejemplo, donde hablan puquina.
Ils parlent aussi dans quelques autres puquina.
Son los urumuratos o los uruchipayas.
Il y a aussi les urumulatos et les uruchipayas dans un salar.
Hablan
voisin.
Otro idioma que es el puquina. Hablan aymara y un poco de quechua.
Parle puquina, mais toujours aymara, un peu de quechua, espagnol.
Yo hablo quechua.
Et vous, señor Ponce León?
Entiendo aymara.
Moi, je parle quechua, espagnol, et je comprends l'aymara.
Les voix du crépuscule.
Les voix du crépuscule.
Les voix du crépuscule.
Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
Voilà, donc désolé, j'ai pas réussi à tout traduire parce que Tito Ponce León parle voilà, avec une voix un peu étouffée parfois. C'est un vieil homme et j'étais heureux de le rencontrer. Alors, pour que vous imaginiez la scène, je suis d'abord allé dans un café qui s'appelle le Yama Café, tout simplement, à Uyuni. Et dans ce café est un peu un centre culturel. Il y avait dans la bibliothèque un livre qui a attiré mon attention, qui s'appelait Uyuni, Más allá del tiempo. Et ce livre était écrit par Tito Ponce León. J'ai discuté avec le patron du café, donc... Bismarck, je le connais par son prénom. Il n'y a que en Bolivie qu'on peut s'appeler Bismarck aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Bismarck en Allemagne. Mais Bismarck a beaucoup voyagé, dont en France, d'ailleurs. Il était très content de recevoir un Français. Et qui m'a dit, bah, en fait, le seigneur Tito Ponce León habite juste à côté, à deux cuadras. Donc, il m'a donné son adresse, son numéro. J'ai pu le contacter et l'interview s'est faite en une journée. Le lendemain, je pouvais l'interviewer. Donc, c'était vraiment exceptionnel.
Ouais. Alors, je suppose qu'après, tu l'as interviewé aussi sur le lithium.
Oui, je l'ai interviewé sur le lithium. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est extrêmement en colère. Il est extrêmement en colère. Et en fait, en réécoutant l'entretien, il n'a pas trop envie d'en parler. C'est quelqu'un qui a fait de la prison, hein, pour ses prises de position politique. Voilà. Donc... Il connaît les difficultés de s'exprimer ouvertement en Bolivie. Donc, il est très en colère contre la façon dont se déroule l'exploitation du lithium. Il considère que c'est une sorte d'apartheid aussi qui s'installe à Uyuni, parce que les populations qui arrivent, en particulier de Chine, de Russie, mais bon, surtout de Chine en réalité, ou d'Australie ou des pays occidentaux, pour faire de la prospection sur Uyuni, parce qu'il faut savoir que le sel des Andes est encore peu exploité sur le plus grand salar du monde pour extraire du lithium. Il est plus exploité au Chili, donc sur le salar d'Atacama, et plus exploité dans les salars d'Argentine, comme Salinas Grandes ou le salar del Hombre Muerto, qu'en Bolivie. Mais c'est en train de changer. Là, des accords déterminants ont été signés l'année passée, donc pour des exploitations vertigineuses. Ça, c'est un premier problème d'ordre écologique, économique, de justice sociale quant aux revenus générés par cette extraction. Mais il y a aussi la vie quotidienne à laquelle on ne pense pas forcément. Et cette impression d'apartheid entre des gens qui viennent là juste pour exploiter et pas pour vivre, puis des gens qui sont là... des acteurs du tourisme, par exemple, qui vivent dans la ville d'Uyuni et qui ne sont pas une société parallèle, disons. Voilà. Donc,
Oui. Moi, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, Evo Morales, qui était président de la Bolivie, premier président indigène, parlait de nationaliser les ressources du salar. Alors, c'était dans l'objectif de les exploiter ou d'éventuellement les exploiter. Je ne sais pas où ça en est, si justement il y a une exploitation nationalisée. Bon, en tout cas, ce qu'on constate déjà, c'est que les gouvernements de gauche en Bolivie exploitent aussi et ne s'opposent pas à l'exploitation des ressources minières.
Non, non, non. C'est difficile de s'y opposer pour les gouvernements de quelque
couleur que ce soit.
Oui, exactement. Mmh. C'est tellement juteux, même si là, il y a eu un petite récession du lithium, mais avec l'explosion de la voiture électrique et de la production de batteries au lithium, extraire du lithium puis fabriquer du chlorure de lithium, etc., c'est vraiment un nouvel or blanc, enfin une nouvelle façon d'envisager l'or blanc du sel. Donc ils ont signé des accords, le gouvernement bolivien, là, le dernier gouvernement a signé des accords avec la Chine, avec l'Australie, avec la France, soit pour de l'exploitation, soit pour de l'exploration. Donc pour la Chine, c'est de l'exploitation par la méthode traditionnelle, qui consiste à extraire les saumures sous les salars et à déverser dans des lacs d'évaporation, des bassins d'évaporation, les saumures extraites en sous-sol, à recueillir les cristaux, à nettoyer ces cristaux et ensuite à les envoyer en Chine pour qu'ils soient vraiment transformés en... je ne sais plus je crois, si c'est en chlorure de sodium, de lithium ou en carbonate de lithium, j'ai un doute là-dessus. Mais c'est la dernière étape pour rendre le lithium utilisable pour la batterie, elle n'est pas faite dans les Andes. Donc c'est encore comment dire, une valeur ajoutée de transformation qui pourrait rester dans les Andes, qui n'est pas obtenue, qui échappe aux travailleurs andins. Et l'autre méthode, qui est pour l'instant portée seulement par une entreprise française, je crois, c'est l'extraction directe du lithium, qui commence à être testée en Argentine, dans la province de Salta, par une entreprise française dont j'ai oublié le nom.
Et moi aussi, parce que j'ai juste entendu un reportage sur France... Enfin, pas un reportage, une interview sur France Info il y a 2 semaines, où la responsable expliquait que le but aussi, c'est qu'il y avait moins de prise au sol. Et bon, alors bien sûr, elle disait que c'était propre, hein, mais ça, on peut en douter. Mais que le but était aussi de pouvoir exploiter en Europe, parce qu'en Europe, on n'a pas des grandes étendues comme ça. Et le lithium est beaucoup plus à proximité des populations ou de densité de population plus importante. Et donc, l'acceptation des mines est bien plus faible en Europe. Et donc, ils cherchent des moyens qui soient un peu plus souterrains, plus propres, eux, vont dire... Pour exploiter en Europe.
Oui, bien sûr. Alors ouais, c'est un sujet difficile. J'ai essayé d'en savoir plus. J'ai contacté parce que les acteurs boliviens de Duyuni essayent de se mobiliser. Par exemple, Bismarck, le patron du café et du centre culturel, avait contacté des chercheurs boliviens pour faire une étude sur l'impact écologique du lithium, parce qu'ils en manquent en réalité. Je suis allé chercher des études sur Internet, j'ai trouvé dans quelques revues scientifiques une étude à laquelle avait contribué un chercheur français, un chimiste, Alexandre Chagne, que j'ai interviewé, et lui disait, il a fait un article avec quelques collègues argentins sur l'impact écologique des différentes méthodes d'extraction, et il disait que c'est pas très facile d'estimer cet impact, en particulier. C'est sûr qu'il y a ça utilise beaucoup d'eau, en fait. Et ça, c'est le principal problème, parce qu'il faut s'imaginer que les steppes, globalement, de l'altiplano, elles sont arides. L'eau n'est pas quelque chose de très facile à obtenir quand on est à 3000 ou 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est un bien très rare et précieux. C'est ça, la principale préoccupation des populations autochtones. Et donc, ce n'est pas évident que la méthode directe d'extraction réduise beaucoup l'impact en eau. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est le point clé. En fait, au-delà de la contamination éventuelle, le point clé, c'est de savoir si le coût en eau va diminuer avec la méthode directe d'extraction. Et si, voilà.
Alors, Émile, il va peut-être falloir qu'on se dirige maintenant vers Oruro, parce que l'heure tourne et qu'il faudrait qu'on parle de ce carnaval.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc voilà, l'étape de Duyuni, j'ai mélangé les deux. Nous éloigne un peu de la festivité du carnaval, mais il ne faut pas perdre le nord. Donc on continue vers le nord, on arrive vers Oruro, cette ville dont on a pu me dire, une amie bolivienne m'a dit à Buenos Aires, mais à Oruro, il n'y a rien. parce qu'évidemment, elle n'est pas très versée en danse folklorique. Elle fait du tango et donc elle est partie de la Bolivie pour aller danser le tango en Argentine. Et moi, j'arrive à Oro et je n'ai pas trouvé qu'il y avait rien du tout. La danse remplissait la ville. Les fraternités de Morena et de Diablada occupaient avec leurs milliers de membres tout l'espace public pour répéter. Répéter, je dis bien, pas seulement pour faire, pour répéter en vue du carnaval. C'était un mois avant le carnaval. Donc on va écouter un extrait d'une répétition. Pour le coup, on est encore dans le salon de la fraternité de la Diablada de Oruro, et où on recrute les nouveaux et on les forme au pas de la Diablada.
Nos encontramos ahora en Oruro, en la sede institucional de la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, con Roberto Yanes Soria.
Nous sommes actuellement à la Fraternité Culturelle Centrale de la Diablada d'Oruro, avec Roberto Yanes Soria. Et nous sommes très heureux de commencer à connaître cette ville à travers de la danse et à travers du carnaval, et peut-être à partir de ce qui représente le plus cette ville. Nous nous sentons aussi ravis et contents de vous recevoir dans notre institution qui fête ses 80 ans. Personnellement, ça fait 29 ans que je suis dans cette fraternité avec mes parents, avec ma famille. Dans la danse, nous partageons quelque chose de commun, c'est partager notre danse, offrir notre danse à la Vierge du Socavón.
Donc,
une répétition des nouveaux diables est en train de commencer. Les femmes sont avec des mouchoirs jaunes et les hommes, eux, ont des mouchoirs de toutes les couleurs. Donc, comment s'organise cela? Qu'est-ce que sont en train d'apprendre les nouveaux diables? Alors, d'abord, ils se séparent par genre. Il y a quelques mouvements différenciés, autant par les vêtements que par la musique. Donc là, ils sont en train d'apprendre les pas de base. Donc là, ils sont en train de faire le bateo simple. C'est faire avec, à partir du bombo, en bouger seulement une jambe.
Ahora bien, acá las damas están marcando el paso para iniciar un avance.
Donc ils sont en train de marquer le pas, ils lèvent les bras parce que c'est la partie initiale de la danse. Donc avec le bateo bueno. Donc ils vont pratiquer pour connaître les éléments essentiels de la danse. Et comment se divise la musique? Il y a des moments bien particuliers de danse par rapport à la musique ou c'est des chorégraphies que vous apprenez? Bonne question. En fait, on a plusieurs rythmes pour commencer. Ça, c'est la Diablada. Mais on apprend aussi la cacharpaya, mais aussi le carnavalito ou la cueca. On a une marche d'ordre qui se fait à un moment spécial. Chaque rythme a ses propres pas.
Bateo simple, bateo doble,
mais toujours basé sur le bateo simple, bateo doble, vuelta a caballo. El carnavalito c'est un bateo simple. Donc chaque rythme a sa particularité. Oui, je m'imagine.
Et
une fois que vous êtes dans la rue, il faut imaginer que ce sont des blocs avec les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, ou bien vous vous mélangez. Il y a des moments en couple où vous êtes seul. Comment ça se passe?
Bien.
Notre Diablada se divise en estamentos. Par exemple, les diables dansent seulement entre diables. Par contre, les chinas ont aussi un couple. Los capas. Et dans la rue, on va les voir en couple. Mais par contre, les diables, non, jamais. Seulement entre hommes. Et pourquoi ça? Parce que ça fait partie de la tradition. C'est l'héritage de la danse de la Diablada. Ça représente l'auto sacramental dans lequel la lutte entre le bien et le mal fait que les diables luttent contre l'ange. Et ensuite, ils sont vaincus par l'ange. Et c'est pour ça qu'ils dansent ensemble.
¿Qué significan los colores de los pañuelos?
¿Qué significan las couleurs des mouchoirs?
Para empezar, es una representación en la danza para diferenciar los personajes. Los diablos
c'est d'abord une représentation de la danse pour différencier les personnages. Il y a le mouchoir vert et le mouchoir rouge. À la gauche et à la droite.
Lucifer, Satanás, Chinasupai,
diablos, Lucifer, Satanás, Satan.
Y además, en nuestro país, acá en Bolivia, representan los colores de la bandera nacional.
Cela représente les couleurs du drapeau national.
Entiendo, son distintas capas simbólicas.
D'accord, sont différentes couches symboliques.
Nos dijiste que vos eras un diablo de
la fila verde. Tu nos has dicho que tú étais un diable de la fila verde.
Hay una diferencia de interpretación entre ser un diablo de la fila verde y
ser un diablo de la fila roja. Il y a une différence d'interprétation entre être un diable vert et un diable de la fila rouge. Oui, il y a des différences chorégraphiques. Dans la file verte, il y a quelques mouvements et dans la file rouge, d'autres. En revanche, comme personnages, nous représentons tous les sept péchés capitaux. Donc vous devez incarner ces sept péchés capitaux dans vos mouvements? Oui et non. Car dans la chorégraphie, nous avons des tâches similaires.
Pueden ser diablos de la verde o de la roja que interpretan el relato
donc,
como tal.
Vous pouvez être diable rouge ou diable vert et interpréter les mêmes sentiments. Et le carnaval d'Oruro dure une semaine?
Bueno, podríamos decir que dura todo el año debido a los tiempos de preparación.
Qu'il dure toute l'année.
Y la ansiedad que tenemos, ¿no?
Étant donné le temps de préparation et l'envie que nous avons de le préparer. En général, on dit que ça commence avec le premier convite, la première semaine de novembre, jusqu'au mercredi décembre, qui varie selon chaque année. Ça peut être en février ou en mars.
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Émile, il y a une petite chose que tu n'as pas traduite dans tout cet extrait passionnant. C'est le mot podcast qui est revenu quelques fois au début parce que tu as créé un podcast en ce moment,
oui,
spécifique pour ça, qui s'appelle Los Caminos del Folclore.
C'est ça. Tu corriges ma modestie mal placée.
Voilà.
Mais je suis aussi un peu débordé par le flow. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la traduction simultanée, donc je m'excuse par avance. Voilà,
comme ça, ça a été l'occasion de le placer après l'interview. C'était parfait. Juste, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut le trouver?
Oui, sur les réseaux, PodCloud, Spotify, Deezer, on peut trouver Los Caminos del Folclore.
Et c'est seulement en espagnol?
Oui, c'est qu'en espagnol, par contre.
Ok. Eh bien, tu vas nous dire un peu ce que tu as ressenti. Donc, ça avait l'air effectivement très prenant comme ambiance et très surprenant, peut-être.
Oui, en fait, j'aimerais juste vous partager le dépaysement, essayer de vous faire comprendre à quel point c'est dépaysant d'arriver à Oruro et de voir ces danseurs se préparer et parler avec autant de ferveur du jour du carnaval, parce qu'en réalité c'est un jour précisément, hein, c'est toute l'année une tension pour un jour précisément. Et cette intensité mise dans la préparation du costume, parce qu'en fait c'est toute une façon de vivre la danse qui nous est étrangère, qui n'existe plus, ou je ne sais pas si elle a déjà existé en Europe, en tout cas qui n'existe plus dans le monde industriel. Je pense qu'il faudrait se reporter à des temps très anciens pour avoir quelque chose de similaire. Et dans le dernier extrait sonore que j'aurais aimé vous passer, mais je ne sais pas si on aura le temps, donc peut-être que je vais le dire moi-même, Natalia Centellas, qui est une diablesse pour le coup, et qui forme les femmes, les nouvelles diablas qui intègrent la fraternité, elle disait « Le premier moteur pour la danse, c'est la foi. » Le premier moteur, c'est la foi. Et on sent cette énergie religieuse collective présente à chaque instant. Elle est présente dans le dépassement du corps. Ce ne sont pas des gens qui ont des corps de danseurs. Ce sont des gens qui ont des corps de personnes ordinaires. Et donc, la diablada, une danse qui incarne le combat des diables contre l'ange, c'est une danse du saut. On saute et tout ça avec un costume lourd, avec un masque qui représente le diable. Donc tout ça, c'est difficile. C'est une énergie forte et il faut faire ça pendant des heures. Et donc, on ne peut pas comprendre le fait que ça s'accomplisse sans, d'une part, cette dimension religieuse, et d'autre part, cette dimension corporative, associative. C'est-à-dire que la fraternité de la Diablada, il y a aussi celle de la Morenada, et en réalité, chacune des danses qui composent le carnaval, officiellement, il y en a 18, donc c'est que officiellement, ça veut dire que vous en avez d'autres. Donc je vous laisse imaginer, c'est un peu comme nos sports à nous. Nous, on a nos équipes de volley, de basket, de foot, on n'en finit pas de voir des matchs à la télé, bah, eux, ils n'en finissent pas d'avoir des fraternités de danse. Et donc ils ont tout un tas de danses qui sont connectées les unes aux autres, qui racontent chacune une dimension de l'histoire des Andes, une dimension de l'histoire biblique, parce que les deux se mélangent. Et quand vous voyez défiler ces 18 blocs, vous voyez une histoire pour eux. Tout a un sens. C'est une histoire en chant, en danse, qui s'incarne dans ces gens. Et chaque donc fraternité a plusieurs milliers de personnes. Donc moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est aussi la façon dont la danse prenait d'assaut l'espace public et la facilité avec laquelle ils faisaient des répétitions dans la rue et immobiliser le trafic pendant des heures. Oruro, c'est quand même une grande ville, hein. C'est pas une petite ville, c'est une grande ville. Et donc très facilement, plusieurs week-ends par an, bien avant le carnaval, les fraternités bloquent le trafic pour leur répétition. Imaginez ça à Lyon, à Marseille, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on peut l'imaginer peut-être pour un grand match de foot, une grande compétition.
Pour les Jeux Olympiques.
Peut-être pour les Jeux Olympiques, c'est ça. Mais là, voilà, c'est pour des danses.
Oui. Ces danses, et ces fraternités de danse, et ces carnavals, est-ce que c'est... qu'en Bolivie, est-ce que ça se retrouve ? Je parlais un peu de continuité dans les pratiques musicales, pratiques de danse tout au long des Andes dans mon édito, mais peut-être d'ailleurs qu'il n'y en a pas tant que ça et qu'entre ce qu'on va trouver au sud de l'Argentine et au nord de l'Argentine, il y a vraiment... Mais tu nous disais qu'il y en avait quand même, finalement, avec la samba. Mais là, par exemple, ces fraternités, est-ce que c'est un peu dans toutes les Andes ? Est-ce que c'est très localisé ? Est-ce que c'est la Bolivie seulement ?
Il y a quand même une coulée culturelle andine. Donc ça, c'est très clair. Mais c'est vrai que la coulée culturelle, elle est modifiée par les frontières nationales. Et donc la puissance des organisations de fraternité est moins forte en Argentine, dans le nord-ouest argentin, beaucoup moins forte. Mais elles existent. Elles existent. Peut-être pas sous la forme de grandes fraternités comme ça, aussi puissantes, avec des liens politiques, des budgets importants chaque année. Mais ce sont des associations plutôt dans le nord-ouest argentin. Mais ils organisent aussi le carnaval et ils le vivent comme à Oruro. Dans toutes les Andes, en tout cas jusqu'au Pérou. Après, il faudrait voir avec des ethnomusicologues si c'est la même chose plus haut, je ne sais pas. Mais Pérou, Bolivie et nord-ouest argentin, oui, c'est la même énergie musicale et dansée dans les carnavals, absolument.
En tout cas, quand on en a parlé à Dario, autre animateur des Voix du Crépuscule qui lui est chilien, il avait l'air de connaître les fraternités de danse et les carnavals.
Bah oui, parce que moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas parlé du Chili, mais je suis allé arriver au nord du Chili, à Arica, à la fin de mon voyage. Il y avait des répétitions aussi pour le carnaval. On était en train de danser des tinku, une autre forme, dans la rue. Donc c'est vraiment quelque chose de commun aux Andes. Après, quand on sort des Andes, c'est différent. Voilà. Donc il y a le carnaval des Andes et puis il y a les autres.
Oui. Alors bah justement, on va sortir des Andes et on va clore cet entretien. Je pense qu'on aurait pu aller plus au fond de ces pratiques syncrétiques, hein, finalement, puisque bon, il y a la foi chrétienne qui est le moteur, mais c'est quand même aussi issu des rituels autochtones.
Bien sûr.
Moi, je voulais faire un petit tour en Amazonie parce que, en fait, nous avons lancé avec le CSI Anita Sinan, le Comité de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques, une campagne de dons pour venir en aide aux populations d'Amazonie péruvienne qui ont été sinistrées par les inondations. Il y a eu des inondations terribles entre décembre et avril. C'est pas les premières, il y en a eu beaucoup ces 10 dernières années. Je pensent que le réchauffement climatique y est pour quelque chose. Mais là, elles ont été terribles. Il y a eu de l'eau jusqu'à la poitrine et les populations ont tout perdu. Il n'y a pas d'article en français sur le sujet, ou peu. Mais quand on cherche en espagnol, effectivement, il y a des articles qui font un peu froid dans le dos, où ils nous disent que les populations ont été transformées en fantômes. Donc on a lancé cette campagne de dons et on a reposté sur le Facebook des Voix du Crépuscule. Donc on vous invite à aller voir. Je vais peut-être essayer de l'envoyer aussi par mail ou par un autre moyen. Mais puisqu'on parlait de l'Amérique du Sud et qu'on s'arrêtait presque au Pérou, là, je voulais aussi en parler. Et puis une autre chose, le 21 juin, on va faire une émission scientifique entre les différentes émissions scientifiques de Radio Campus Paris. Ça sera à l'ENS. On ne sait pas encore si ça sera en public, donc on vous invite à vous tenir au courant, toujours sur notre Facebook, où vous nous écrivez lesvoixducrépuscule@radiocampusparis.org, tout collé. Ça ne sera pas diffusé le 21 juin, on ne sait pas encore quand ça sera diffusé. On vous en dira plus dès qu'on le saura. Le thème, ça sera « Qu'est-ce que la science ? La philosophie est-elle une science ? Les différences entre sciences sociales et sciences dites, je mets beaucoup de guillemets, dures ?» Voilà, en tout cas, c'était la dernière émission régulière de l'année des Voix du Crépuscule. Je remercie Émile, notre invité, qui a fait un peu beaucoup le boulot de choisir les extraits sonores. Je remercie Émeric à la technique. Et moi, c'est Pascal.
Merci Pascal, merci pour l'invitation.
On vous retrouve bientôt avec cette émission spéciale qui sera sur le fil podcast des Voix du Crépuscule, et on vous retrouve en septembre. On vous donnera la date. Continuez à nous suivre. Bonne fin de saison sur Radio Campus Paris.